Chapitre 23. Opération retournement. 1 sur 2. Dans le hall de l'hôtel des Bergues, en ce soir du dîner de l'association des banquiers genevois, Macaire et Anastasia rejoignirent Lev dans les grands escaliers en pierre. « Salut, Lev, » dit Macaire d'un ton désagréable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lev s'inclina poliment devant Anastasia qui arrivait à la suite de son mari. « Tarnogol est apparemment malade comme un chien. » En entendant cela, Macaire se demanda si la P30 n'avait pas pris les devants et ne l'avait pas déjà empoisonné. Il m'a dit qu'il n'était pas assez bien pour rester au dîner et qu'il voulait quelqu'un pour le remplacer et assurer les intérêts de la banque. « Ah !» dit Macaire, contrarié par la présence de Levovitch à ce dîner. « Pourquoi toi ? Il aurait pu me demander à moi. »« J'imagine que c'était pratique, puisque j'habite ici. Il m'a fait appeler dans ma suite et je suis descendu aussitôt, je ne savais pas que vous veniez aussi. C'est une bonne surprise ?» Anastasia se retint de lui sourire encore. « En fait, on remplace Jean-Béné et Charlotte, ils ont un empêchement, » expliqua Macaire. Il était à présent d'une humeur massacrante. Que ce fût pratique ou pas pratique, c'était un très mauvais signe que Tarnogol ait appelé Levovitch pour le remplacer au dîner. Ils montèrent tous les trois les marches jusqu'au premier étage. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée de la salle de bal, Levovitch entraîna Macaire à l'écart, priant Anastasia de bien vouloir les excuser pour un bref aparté professionnel. « Macaire, » dit Lev lorsqu'ils furent à l'abri des oreilles, « je dois te parler de quelque chose de très important. » Macaire prit son air le plus grave pour signifier à Levovitch qu'il avait toute son attention, mais ils furent à ce moment interrompus par un employé de l'hôtel qui accourait avec la canne de Tarnogol à la main. « Pardon de vous déranger, monsieur Levovitch, » s'excusa l'employé, « mais le monsieur qui était avec vous tout à l'heure a oublié sa canne au vestiaire. »« Merci, » dit Levovitch en s'emparant de la canne aux pommeaux sertis d'impressionnants diamants. « Je la lui rapporterai. Souhaitez-vous que je vous la fasse monter dans votre suite ?»« Non merci, je vais la garder avec moi, c'est plus sûr. » L'employé de l'hôtel s'en alla, et Levovitch joua avec la canne. « Veux-tu que je la lui rende moi ?» proposa Macaire, qui voyait là une aubaine de se rabibocher avec Tarnogol. « Non, t'embête pas avec ça, » lui conduisit Levovitch. « Je t'assure que ça ne m'embête pas du tout, » insista Macaire en essayant de se saisir de la canne. « Allons, j'aurais scrupule à te faire perdre ton temps, » dit Levovitch en s'accrochant à la canne. « Tu n'es pas le service des objets trouvés. Revenons plutôt à nos moutons. » « Je t'écoute. » assura Macaire, abandonnant la canne et prenant un air de premier ministre. « C'est un peu gênant, » prévint Levovitch. « Parle sans crainte. » « Eh bien, avant de rentrer chez lui, Tarnogol m'a parlé de quelque chose. Ça concerne la présidence de la banque. »« Accouche, enfin !» le pressa Macaire. « Que se passe-t-il » Après une hésitation, Lev annonça. « Tarnogol veut me nommer président de la banque. Il dit que j'ai la voix d'Horace Hansen également. » lâcha Macaire qui sentait son estomac se nouer. Feignant d'être surpris par la nouvelle tout en s'efforçant de masquer sa panique, Macaire mit la main dans sa poche et serra sa fiole de poison. L'idée de la verser dans le verre de Levovitch ce soir lui traversa alors l'esprit. Un seul geste à accomplir et Levovitch serait éliminé pour de bon. Mais Levovitch assura son salut en ajoutant « J'ai évidemment refusé le poste. »« Ah ?» répéta Macaire en relâchant sa fiole. « Oui, évidemment, c'est à toi que ce poste revient. Je suis même surpris que Tarnogol ait pu penser à moi. »« Eh bien, je suis flatté que tu penses que je suis l'homme de la situation. »«
Ça me semble une évidence. Seul un Ebesner peut diriger la banque Ebesner. J'ai donc dit à Tarnogol qu'il fallait te nommer, toi. »
Le visage de Macaire s'illumina. « Merci, mon cher Lev. Et Tarnogol était d'accord avec toi ?»«
Non. Il a dit qu'il en était hors de question. » C'est pour ça que je suis embêté. »
Macaire devint aussitôt blême.
Ah bon? Il a dit que, si je refusais, il nommerait quelqu'un d'autre que toi. Peut-être Gendarme. Apparemment, c'était le second choix de Jean Béné et de son père depuis le début.
Gendarme, le directeur des ressources humaines?
Oui, apparemment, il est celui qui a le plus d'ancienneté.
Macaire se sentit gagné par la panique. Il perdait le contrôle de la situation. Un employé de l'hôtel se mit à agiter une cloche, indiquant aux invités qu'ils étaient priés de rejoindre la salle de bal et prendre place à leur table. Macaire laissa Levovitch se mêler seul à la foule des convives et resta à l'écart pour téléphoner à Jean-Bénédicte. Il voulait l'informer de la défection de Tarnogol et de l'annulation de leur opération. Mais le portable de Jean-Bénédicte sonnait dans le vide. Macaire essaya ensuite le domicile de Hansen. Pas de réponse. Il contacta alors Charlotte, sur son téléphone portable,
dans l'espoir qu'elle était peut-être encore avec son mari, mais celle-ci lui indiqua être de sortie avec sa sœur.
« J'ai laissé Jean Bénet en piteux état, »
dit-elle.
« Le pauvre était au fond de son lit. Tu as essayé son portable ? Ou directement à la maison ? Mais je ne pense pas qu'il se lèvera pour répondre. »
« Merde de merde !»
pesta Macaire après avoir accroché. Jean-Bénédicte s'était certainement dégonflé. Macaire, se sentant décontenancé par la tournure de ce début de soirée, se réfugia aux toilettes pour y trouver un peu de calme. Il y relut ses fiches qu'il gardait précieusement dans la poche de son veston. Mais les blagues qu'il avait notées lui paraissaient soudain fades, et voilà qu'il confondait les sujets d'actualité. Lui qui connaissait ses notes sur le bout des doigts une heure plus tôt, il se mélangeait à présent les pinceaux, confondant l'Irak et l'Iran. Pour se redonner une contenance, il se passa de l'eau sur le visage. Mais il mouilla sa cravate qu'il dut ensuite faire sécher en la passant longuement sous le sèche-main. Lorsque Macaire rejoignit finalement la salle de bal, le président de l'Association des banquiers genevois avait déjà terminé son discours d'ouverture. On servait les entrées et les tablés parlaient gaiement entre elles. Ayant complètement oublié de consulter le plan de table à l'entrée de la salle et ne parvenant pas à retrouver Anastasia au milieu de tous les invités, Macaire dut ressortir dans le grand hall et scruter la liste alphabétique sur laquelle il ne se trouva pas. L'étudier encore, ne s'y trouva toujours pas. Appela un employé à l'aide, qui ne l'y trouva pas non plus, avant de se rappeler qu'il avait été placé sous le nom de Jean-Bénédicte Hansen. L'employé lui désigna la table 18, tout au fond de la salle de bal, où il serait en compagnie des deux associés seniors de la banque Pitou et leur femme, ainsi que de la présidente de la banque Barne. Quand il y arriva enfin, Macaire eut la mauvaise surprise de découvrir que tous les convives autour de la table étaient suspendus aux lèvres de Levovitch qui, après les avoir comblés de quelques bons mots dont il avait le secret, leur racontait une petite blague. Macaire n'en entendit que la chute.
Le patron du restaurant demanda alors à Picasso « Maître, pourriez-vous me le signer ?» Mais le peintre lui répond « Vous m'avez offert mon dîner, pas votre restaurant. »
La tablée éclata de rire.
« Je la connaissais. » « Elle était dans le journal de la semaine dernière », grommela Macaire en s'asseyant à côté d'Anastasia.
Le dîner fut un enfer pour Macaire. Levovitch, impérial et plus brillant que jamais, captait toute l'attention. Admiré et admirable, rayonnant en tout point supérieur. Chacun voulait entendre son avis. Que pensait-il de ci? Que pensait-il de ça? N'avait-il pas fini de répondre qu'on l'interrogeait encore? Et ses réponses éclairées recueillaient des « oh » et des « ah » d'émerveillement. Chacun louant la finesse de son esprit, accueillant ses paroles avec des hochements de tête admiratifs, subjugués par cet homme qui déversait, avec tant de modestie, un inépuisable savoir. Passant avec une aisance totale d'un sujet de conversation à un autre, il distillait avec une maestria insolente son expertise, de façon tantôt sérieuse, tantôt cocasse, ce qui lui conférait le don de ne jamais perdre l'attention de son auditoire. Macaire, lui, ne put pas en placer une. En partie à cause de Levovitch, mais aussi parce que, sa voisine de droite étant sourde comme un pot, il devait lui rapporter les échanges comme un interprète aux Nations Unies. On aborda d'ailleurs les Nations Unies pendant le plat principal et la toute récente conférence qui s'y était tenue sur la question des réfugiés. Macaire, qui connaissait parfaitement le sujet grâce à ses révisions de l'après-midi, s'apprêtait à épater la galerie, mais au moment d'ouvrir la bouche, sa voisine malentendante lui demanda
« De quoi on parle? J'entends rien !»«
De la conférence sur les réfugiés aux Nations Unies, » lui souffla Macaire.
« La quoi ?»«
La conférence sur les réfugiés, » répéta encore Macaire, agacé. En entendant Macaire prononcer le mot « réfugié », Levovitch embraya. « Qu'est-ce qu'un réfugié ?» interrogea-t-il. Tout le monde se gratta la tête.
« Les réfugiés, ce sont des voleurs et des faiseurs de problèmes !»
déclara alors la sourde qui avait cette fois parfaitement entendu.
« Chagall, Nabokov, Einstein et Freud étaient des réfugiés !» lui fit remarquer Levovitch.
Il y eut des approbations émues.
« Mon père était un réfugié !»
dit la présidente de la banque Barne, appuyant les propos de Levovitch.
« Il a fui Téhéran au moment de la chute du Shah pour venir en Suisse !»
La discussion embraya alors sur les rangs.
« Merde !»
songea Macaire. Il n'avait pas eu le temps d'en placer une sur la conférence sur les réfugiés et voilà qu'on parlait maintenant de l'Iran, pays auquel il ne connaissait strictement rien. Il avait bien une blague avec un chat, mais il jugea préférable de s'abstenir.
« Vite dire quelque chose, mais quoi ?»
Il orgna discrètement l'une de ses fiches, se souvenant d'avoir noté diverses statistiques de l'OPEP. Mais la discussion rebasculait déjà car la présidente de la banque Barne demanda « Levovitch, c'est de quelle origine ?»«
Russe. Mes grands-parents paternels étaient originaires de Saint-Pétersbourg. »
« Donc vous parlez russe couramment ?» demanda l'un des convives.
« Oui, » répondit Levovitch, « même si mes grands-parents me parlaient le plus souvent en yiddish. »
« Et votre mère est russe aussi ?»«
Non, elle était de Trieste. »«
Donc italienne ?»
conclut la présidente de la banque Barne.
« Non, elle est née à Trieste, mais d'une mère française et d'un père hongrois. Son père était ophtalmologue. Il avait quitté la Hongrie à pied pour aller faire ses études de médecine à Vienne, avant de s'installer avec son épouse à Trieste, où ma mère est née. Ils ont ensuite déménagé pour aller vivre à Smyrne, qui était alors grecque, où sévissait une maladie rare des yeux. »
Smyrne, devenue Izmir après son annexion par la Turquie ?
Demanda l'un des associés seniors de la banque Pitou qui avait envie de briller un peu.
Exactement, confirma Lev. Turquie, je te tiens !
Jubila Maker qui sortit de sa poche sans honte une fiche sur la dévaluation de la livre turque pour pouvoir la déclamer. Mais avant qu'un premier mot puisse sortir de sa bouche, quelqu'un demanda à Levovitch.
Donc vous parlez italien aussi ?
Et Levovitch reprit de plus belle.
Oui, ma mère ne me parlait qu'en italien. Mes grands-parents maternels, eux, avaient pris le pli de me parler grec. J'ignore pourquoi. Enfin bref, pour répondre à votre question sur mes origines, récapitula Levovitch, qui sentait que son auditoire perdait le fil, mon père était russe et ma mère française.
Mais alors vous, vous êtes né où ?
Demanda la présidente de la banque Barne.
À Genève, évidemment. C'est là que mes parents se sont connus et que j'ai passé mon enfance.
Évidemment.
Répéta Macaire qui, privé de parole, était prêt à n'importe quoi pour qu'on entende le son de sa voix.
Ah, donc vous êtes suisse ?
S'étonna l'un des associés Pitou comme s'il s'agissait d'une incongruité.
Bien entendu, dit Lev.
Bien entendu,
répéta Macaire pour encore en placer une, tout en songeant que les Juifs avaient vraiment des histoires de famille à dormir debout.
C'est drôlement peu pratique d'avoir un prénom et un nom pareil quand on est suisse.
Déplora la sourdingue après que Macker lui eut répété l'échange.
« Tout le monde doit vous prendre pour un étranger !»«
Nous sommes tous les étrangers de quelqu'un, non ?»
fit remarquer Lev.
« Et vous avez toujours vécu à Genève ?»
demanda l'un des associés Pitou.
« J'y ai vécu jusqu'à mes 14 ans. Nous sommes allés ensuite à Zurich, puis à Bâle, avant de nous installer à Verbier. Je suis revenu vivre à Genève il y a 15 ans.
« Combien de langues vous parlez ?»
interrogea la sourde, admirative.
En tout cas, 6.
10, en fait,
avoua Levovitch, car il faut ajouter l'anglais, l'espagnol et le portugais, appris à l'école, au gré de quelques voyages ou de mes fréquentations.
De mes fréquentations,
répéta Macaire, déconfit, désespérant qu'on s'intéresse à lui.
Il y a aussi l'hébreu, appris en préparant ma bar mitzvah.
Bar mitzvah,
s'écria Macaire le cacatoète.
Ainsi que le farsi, appris avec des clients, ajouta encore Levovitch.
« Farsi, farla !»
enchaîna Macaire, dont personne ne releva le trait d'humour.
« Vous parlez farsi ?»
s'étonna en farsi la présidente de la banque Barne, adressant à Lev un regard de biche. Ce diable de Levovitch lui répondit en farsi, et tous deux conversèrent quelques instants dans cette langue, sous les yeux ébahis du reste de la tablée.
« Où avez-vous appris le farsi ?»
demanda alors la présidente de la banque Barne.
« Pendant quelques saisons, j'ai été au service d'une grande famille iranienne, à Verbier, justement. »«
Vous voulez dire que vous étiez leur gestionnaire de fortune ?»
interrogea l'un des banquiers Pitou qui n'était pas certain d'avoir bien compris.
« Non, »
répondit Levovitch sans rougir. « J'étais leur majordome, au palace de Verbier. »«
Majordome ?»
s'étonna le mari de la sourde.
« Oui, les Anglais appellent ça « butler ». Ça fait plus chic. »«
En réalité, il faudrait plutôt dire « homme à tout faire ». Pendant 10 ans, j'ai travaillé au palace de Verbier.
Et donc ça, c'était avant vos études ?
Demanda l'autre associé seigneur de la banque Pitou.
Je n'ai pas vraiment fait d'études. J'ai appris l'essentiel par mes lectures et par mes rencontres.
Cette dernière déclaration attisa la curiosité et l'enthousiasme de la tablée à l'égard de Lev. À la demande générale, il se mit alors à raconter un petit morceau de l'histoire de sa vie.